Alors, trois films cette semaine, alors pas à l'affiche, ils vont débarquer, certains sont déjà à l'affiche. Trois films qui résonnent étrangement avec les conséquences malheureuses ou heureuses des attentats terroristes survenus la semaine dernière sur notre pays. Loin des hommes de David Olofen, qui est déjà en salle depuis le 14 janvier, avec Viggo Mortensen, grand acteur américain new-yorkais, mais pas que, puisqu'on a pu le voir dans beaucoup de films australiens, dans Witness de Peter Weir, La Route de John Hillcoat, à nouveau un film américain Dangerous Method de David Cronenberg. Mais aussi, il n'hésite pas à faire des premiers films, notamment celui d'une réalisatrice argentine, Anna Pittenberg, qui s'appelle Todos Tenemos Un Plan, un acteur d'envergure internationale parlant de nombreuses langues. Alors le voici en Algérie en 1954, endossant le rôle d'un instituteur français vivant au fin fond de l'Atlas. Une période trouble, souvenez-vous, les débuts de la guerre d'Algérie avec des indépendantistes d'un côté, l'armée française, des règlements de comptes entre familles pour des questions d'honneur d'un autre côté. C'est dans ce contexte que Darou, l'instituteur donc joué par Viggo Viggo Mortensen, à l'accent français assez étrange d'ailleurs, et Mohamed, joué interprété par Reda Kateb, paysan accusé du meurtre de son cousin, sont amenés à partager un bout de chemin ensemble dans la peur ou le soulagement, ça dépend des personnages, d'une fin programmée inéluctable. Alors, cette adaptation libre de la nouvelle de Camus, Lotte, est réalisée comme un western où les compositions musicales de Nick Cave et Warren Ellis, qui aussi joué dans les Bad Seeds avec Nick Cave, s'harmonisent à merveille avec les parties prises esthétiques du réalisateur. Ce parcours de ces deux individus remet l'humain au cœur de la barbarie, la bêtise auxquelles les hommes sont confrontés depuis des millénaires. Ce que je retiendrai de ce film est la beauté d'une rencontre avec sa conscience et son libre arbitre. Loin des hommes, montre à quel point l'individu peut être beau quand il prend conscience qu'il est un être libre, le tout exprimé par deux acteurs exceptionnels, ce qui ne gâche rien ma foi. Et puis, rendez-vous à Athlete, m'a emmené en Israël dans un huis clos familial où les événements nationaux et internationaux font écho. En effet, Shirel Amité, dont c'est le premier long métrage, mais elle a déjà une longue carrière, cette réalisatrice, puisqu'elle est assistante script co-scénariste auprès de grands cinéastes comme Jacques Rivette, Claire Simon, Arnaud Desplechin. C'est quand même pas rien, voilà. Eh bien, elle situe sa fiction en 1995, au moment où le peuple juif et palestinien sont à la veille de la paix et où, malheureusement, un extrémiste religieux juif va assassiner Isaac Rabin lors de la marche pour la paix, le 4 novembre 1995, oui, c'est ça. Kali, Asia, Darel, trois sœurs ayant reçu une éducation libre et pleine de fantaisie, ont construit leur vie aux quatre coins du monde, plus ou moins proche de leurs parents, plus ou moins proche de la maison familiale à Athlete, en Israël. Eh bien, elles se retrouvent pour le partage des biens et la vente de la maison, suite à la mort de leurs parents, bien sûr. Alors, si dans un premier temps, leur complicité ne fait pas défaut, petit à petit, la singularité de leur personnalité, de l'une et de l'autre, va révéler la complexité de leur rapport aux parents et va montrer que finalement, elles n'ont peut-être pas les mêmes aspirations pour cette terre patrie. Sans compter que les fantômes bienveillants qui gardent leur place dans cette maison pleine de fantaisie, aussi une maison pleine de fantaisie, là encore, on a un casting détonnant. On a Géraldine Nakache, qu'on voit plutôt dans les comédies. Judith Chelma, qui elle vient de la comédie française, donc elle fait beaucoup de théâtre. Yael Abécassis, qui elle joue beaucoup dans les films d'Amos Gitaï. Cinéma indépendant, engagé, Arsine Kenjian et ou encore Pippo Del Bono, souvenez-vous, Henri, pour le film de Yolande Moreau, son rôle dans Henri. Eh bien, cette chronique familiale dose bien le conflit intime avec la sphère publique, saupoudrée de comédies, de fantastiques, d'images d'archives ou encore, parfois, ça lande du côté du cinéma catastrophe, mais le tout dans une économie de moyens. Les revenants de la maison d'Athlete me font beaucoup penser à ceux créés par, il y a quelques années, par Gabriel Garcia Marquez pour 100 ans de solitude. Et puis j'ai enfin fini ma semaine avec un autre film d'un tout autre genre, c'est L'Enquête de Vincent Garinck, qui après Présumé coupable, qui revenait sur le jument d'Outreau, eh bien, s'intéresse cette fois-ci aux révélations faites par Denis Robert, journaliste, écrivain, essayiste, sur le fonctionnement opaque de Clearstream. Alors là, nous sommes en 2001. Sa quête de vérité pour tenter de révéler l'affaire des affaires va rejoindre celle du juge Renaud Van Ruinbeck, très engagé, lui, dans la corruption et l'affaire des frégates de Taïwan. Leurs chemins vont les conduire au cœur d'une machination politico-financière baptisée l'affaire Clearstream, qui va secouer bien sûr la 5ème République. Mais ce que ne dit pas ce pitch, c'est comment cette histoire publique va mettre à mal la cellule familiale. Car loin d'en faire un être salvateur et angélique, le réalisateur nous montre Denis Robert, on nous montre surtout ses failles. Denis Robert, interprété par Gilles Lellouche, magnifiquement d'ailleurs. Ce Denis Robert de fiction a un petit côté frimeur dans sa décapotable, un petit côté l'homme somme cow-boy avec ses jeans, sa gueule mal rasée. À force de bosser comme un chevronné sur ses informations, ses sources, eh bien, il en oublie la libido de sa femme, il oublie sa fille au milieu d'un parking de supermarché. Quoi qu'elle soit, ce sont des séquences données à voir de façon très risible et amusante. Cela montre quand même à quel point il est au bord d'un gouffre, sans compter le nombre de procès, le nombre d'huissiers à sa porte. Alors même si aujourd'hui la justice en cassation a reconnu toute la véracité de ses propos dans ses livres, dont s'est inspiré d'ailleurs Vincent Garinck, à savoir l'affaire des affaires, la boîte noire et aussi Révélation. À nouveau, Denis Robert était en région pour la présentation du film en avant-première majestique le mardi 13 janvier dernier. Et avec mes confrères de la presse lilloise, nous avons voulu savoir ce qui l'attendait comme répercussion après la diffusion de ce film. Le film ne sortira que le 11 février. Alors voilà sa réponse. Percussion.
Mon espoir secret, mais qui va plus l'être, puisque je vais vous le dire, c'est que le film ait un impact sur le réel. Et à terme, si ça pouvait aboutir à la seule chose qui peut faire chier Clearstream, dites pas faire chier, mais qui peut la seule chose qui peut aider nos démocraties à aller mieux, c'est une commission d'enquête parlementaire européenne sur Clearstream. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire la lumière sur tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un paradoxe qui est quand même incroyable, qu'il faudrait, si vous pouvez retenir ça, enfin, c'est important pour moi, parce que je me suis assez battu pour ça, c'est que la Cour de cassation, en février 2011, reconnaît qu'on enquête est sérieuse, de bonne foi, sert l'intérêt général, et que les propos, tous les propos, c'est-à-dire tous les propos de mes livres et de mes documentaires, aucun n'est diffamatoire. Ils ont épluché, et je peux vous dire que Clearstream a bombardé, j'ai eu 63 procédures contre moi, donc il n'y a pas une ligne de mes livres qui est diffamatoire, pas une. Donc aujourd'hui, je peux devant vous, les yeux dans les yeux, vous dire que Clearstream est une banque qui dissimule, qui pratique l'évasion fiscale, qui accueille des banques mafieuses, qui ouvre des comptes illégaux à des multinationales, et qui pille les démocraties, ce sont des voleurs de démocratie, ce sont les économies de nos pays qui vivent très durement en ce moment, sont pillées par ces siphons de la finance, ça se fait au vu et au su de tout le monde. C'est un hold-up permanent qui est pratiqué sous nos yeux. Je les accuse de tout ça dans mes livres et dans mes films. Vous pouvez reprendre ces propos, vous ne pouvez plus être poursuivi. Le paradoxe, c'est le suivant, c'est que cette boîte continue à tourner, à amasser du blé, à continuer à pratiquer la dissimulation, etc., etc., et que rien ne se passe.
Mais au vu des actualités, des événements de la semaine dernière, est-ce que justement... ça ne va pas se remuer des choses et faire avancer des choses.
Vous voulez parler des événements à Charlie ?
Oui,
de tout
bien
ça.
Sûr.
Comment dire ? D'abord, j'ai beaucoup d'amis là-bas, dont certains proches. J'avais rendez-vous avec Bolinski, par exemple, pour mon film sur Kavanaugh. Enfin bon, donc c'est une affaire qui me touche particulièrement, mais qui, in fine, dit l'importance de l'information, l'importance de... Parce qu'au-delà des caricatures ou du côté satirique de Charlie Hebdo, c'était un journal indépendant où chaque jour, les gens se lèvent pour faire de l'information, quoi, et avoir du recul par rapport à tout ça. Donc évidemment, le film, mais dans ce contexte-là, même la bande dessinée qui sort, par exemple, toutes ces œuvres qui... n'ont qu'un seul but, c'est édifier les gens, leur apporter de l'information et de la culture, quoi. Donc les événements tragiques peuvent avoir une vertu, c'est de remettre au cœur du débat démocratique l'importance de la presse et des journalistes et le fait qu'il faut absolument les sauver, les aider, enfin, etc., quoi. Et donc le film et notre aventure s'inscrit là-dedans. Et effectivement, on peut fonder un espoir, c'est que l'émotion que ça suscite à cause de tout ça produisent des choses au niveau de notre représentation, c'est-à-dire que les députés français, mais surtout européens, s'emparent véritablement de ces sujets, parce que ça n'est absolument pas le cas. J'ai vu Jean-Claude Juncker embrasser comme du bon pain François Hollande, mais en même temps, il peut l'embrasser tout ce qu'il veut dans les manifestations. Par derrière, il verrouille tout pour qu'on n'aille pas régler toutes les affaires d'évasion fiscale. Donc ça fait partie de l'hypocrisie du système. Mais bon, le seul espoir, si on aime la démocratie, qu'on peut fonder, c'est de dire que les citoyens, voilà, on est abreuvé d'images, mais il y a des images qui marquent plus que d'autres, et donc que ça puisse créer une sorte d'impact nouveau dans les opinions européennes, quoi.
L'enquête est un film qui nous retrace clairement tous les tenants et les aboutissants de cette affaire contemporaine, sans oublier la dimension cinéma, écran large pour filmer une industrie de la banque opaque faite de façades réfléchissantes impressionnantes, une multitude de personnages mais très bien définis dans leur rôle, un montage limpide et une musique à propos composée par Erwan Kermorvan. Avec deux musiques additionnelles, on y retrouve Offsprings et les Sonics, deux courtes séquences révélatrices d'un certain plaisir jouissif du journaliste investigateur quand il donne sa démission à Libération et aussi quand il a les premières révélations importantes et il sent qu'il tient l'affaire, quoi. Et je trouvais que cela était une manière sonore de nous montrer aussi le côté très rock'n'roll de Donny Robert. Donc j'ai voulu savoir auprès de l'intéressé aussi qui avait fait ce choix au montage et connaître par la même occasion ses goûts en matière de musique.
C'est Vincent qui a choisi ça. Mais je lui avais dit ça, c'est-à-dire que moi, quand j'allais à Luxembourg et quand ça arrive, je mettais la radio à fond et moi j'écoute les Stones beaucoup et Tom Waits et j'écoute beaucoup d'électro aussi. J'écoute mes goûts sont très variés, quoi. J'écoute Chopin, des sonates de Chopin en ce moment. La musique est assez présente dans ma vie, mais par période. Mais je ne peux pas écrire avec de la musique. J'écris dans le silence, par exemple. Mais quand je suis en bagnole, quand je suis seul en bagnole, j'écoute aussi pas mal de jazz. Mais quand il y a du monde avec moi, je ne peux jamais écouter de jazz. Donc j'aime pas le R&B et tous ces trucs-là, ça me gonfle. Mais j'ai des enfants qui écoutent ça, donc c'est souvent... Mais vraiment, oui, la musique est importante. Mais voilà, ces derniers temps, j'ai réécouté Léo Ferré parce que j'avais un projet de documentaire sur lui. Et ça m'a replongé dans des états dans lesquels j'étais quand j'étais ado. Ça m'a beaucoup constitué les Ferré, par exemple, Léo Ferré, qui n'a rien à voir avec... Enfin, c'est de la musique aussi.
L'enquête, un thriller politique à la manière américaine comme peut le faire un Pécula ou un Lumet dans les années 70. Ne ratez pas donc ce prochain film de Vincent Garinck le 11 février prochain. Et pour illustrer tout ça, eh bien, on se passe un petit Sonics avec Psycho, bien sûr. Wow, baby, you're driving me crazy. Shut me down. Oh, well, tell.